Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Éric Vuillard. Cher Éric Vuillard, bonjour et bienvenue. On est ravis à Effraction de vous compter au programme, de profiter de l'opportunité d'une parution qui s'appelle Une sortie honorable, début janvier chez Actes Sud, pour vous inviter. Mais de toute façon, c'est aussi un grand entretien, puisque votre œuvre travaille les préoccupations du festival d'une façon à la fois évidente et complètement singulière. Donc, une sortie honorable, si je devais le dire très vite, c'est La guerre d'Indochine par Éric Vuillard. Mais c'est évidemment bien trop vite dit et nous allons l'entreprendre autrement. Parce que Éric Vuillard écrit l'histoire d'une façon, je le disais, singulière, qu'on cite 14 juillet, l'ordre du jour, prix Goncourt, où il est question des rapports entre puissances financières et militaires dans les années 30 en Allemagne. 14 juillet, où il est question de ce qui se passe, ce jour symbolique et de ses conséquences, évidemment, et motivations politiques. La guerre des pauvres, où il est question d'émeutes de la faim dans l'Allemagne du 16e. Les livres d'Éric Vuillard, vous l'avez vu, sont des blocs, des opuscules brefs, extrêmement compacts, extrêmement denses et extrêmement ramifiés. Et ils ont en commun d'être des livres de littérature et d'histoire. Et en écrivant ça dans mes notes, j'ai aussitôt repris d'histoire et de littérature. Ils sont pleinement les deux. Et c'est en ce sens-là, hein, que je le disais, que ça nous intéresse beaucoup pour Effraction. C'est-à-dire que l'histoire telle que nous la raconte, telle que la visite, telle que nous la fait revisiter Éric Vuillard, est particulièrement rendue par une évidente qualité littéraire. Qualité multiple, hein, qualité de narration, qualité d'évocation, qualité poétique aussi. Et les deux sont donc indissociablement liés. C'est-à-dire ce que vous mettez en œuvre n'est pas du tout du roman historique. C'est un mode de récit qui n'exclut absolument pas des mécanismes romanesques, des mécanismes d'organisation de la fiction, mais qui s'en tient au récit et qui part du document. Qui part du document, voire y revient et réinterroge le document en cours de route. Et ça donne une matière fascinante de limpidité et de complexité, si j'ose dire. Hein. Je fais ce démarrage presque sur des oxymores, mais tout de même, c'est fort présent. C'est-à-dire que il est le texte source, et c'est particulièrement remarquable dans Une sortie honorable, et on va entrer par le début. Le texte source de vos interrogations, le document donc, est littéralement interrogé en même temps qu'intégré à des pans d'histoire que vous nous égrenez pour qu'ils construisent quelque chose. Et quand je dis construire, c'est aussi bien romanesquement qu'en termes d'image. C'est-à-dire que là, le lecteur, mais les lecteurs et lectrices que vous êtes de Vuillard l'ont déjà ressenti, il y a un plaisir particulier de lecture, et multiple, à vous lire, qui est parfois sonore, et là c'est le cas, dans ce livre-là, il y a des charges contre des hommes politiques ayant existé qui sont pleine de rage et, si j'ose dire, de joie, dans la joie de presque pamphlétaire de la charge et du langage en route, qui est une énergie. Il y a aussi des scènes, littéralement, qui se montent à nos yeux, des choses qui deviennent soudain extrêmement visibles, non pas seulement pour produire de l'effet de réel romanesque, mais pour que, je pense, cet effet de réel romanesque produise lui-même un surcroît de sens intellectuel. Donc il y a une recherche d'efficacité, de nouveau elle-même documentaire, hein, si vous voyez cette espèce de course qui se produit à la fois à nos yeux et en même temps en grande limpidité dans une lecture qu'on peut avoir rapide, simple, sans se poser 1 000 questions. Les plaisirs sont multiples. Et donc je parlais de blocs isolés de livres. Donc Une sortie honorable traite de la guerre d'Indochine, il en traite d'une manière extrêmement singulière. 14 juillet traite du 14 juillet. Et il y a également des continuités entre vos livres. Ils se font manifestement ou plus discrètement signe. Ils se font signe parfois dans de minuscules détails. Je pense, à titre d'exemple, à une liste de suicidés au début de Une sortie honorable, à une liste de suicidés dans les plantations indochinoises, qui m'a aussitôt renvoyé à des listes de victimes au début de 14 juillet. Cet inventaire-là, bref, qui a une fonction à la fois de mémoire et poétique, évidemment intellectuelle et politique, enfin, qui dit quelque chose. Il y a des signes comme ça, des détails discrets, et puis il y a des continuités plus grandes, c'est-à-dire plus larges, plus thématiques. Une sortie honorable m'a immédiatement, dans son ensemble, fait repenser à l'ordre du jour, comme s'il était un pendant français de ce dont l'Allemagne était porteuse à cet endroit-là, c'est-à-dire de cette alliance fatale entre l'industrie, les puissances d'argent et la guerre. Deux exemples, il y en aurait beaucoup d'autres, mais vos livres sont à la fois extrêmement distincts et reliés. Et pour partir d'une sortie honorable, je vous proposerai, Eric, d'entamer par le début, pour faire les choses simplement, d'entrer dans le livre par ce premier chapitre qui s'appelle « Annexe très confidentiel », un rapport de l'inspection du travail, si vous voulez bien nous en lire un peu, qu'on entende ce dont je parlais, hein, qui est cette histoire de langue aussi, et puis qu'on parte ensemble de là pour questionner tout cela, ce chantier, ce rapport aux documents, et puis ce livre-là.
Il faut voyager, écrivait Montaigne. Cela rend modeste, ajoutait Flaubert. On voyage pour changer non de lieu, mais d'idée, renchérit Sétène. Et si c'était tout le contraire ? Dans un guide de voyage sur l'Indochine de 1923, après une page de publicité pour la maison Ridey et compagnie, armurier au centre d'Hanoï, fournissant armes et munitions de chasse et de guerre, tous accessoires pour chasseurs et touristes, pistolets automatiques ou carabines, avant même que ne soit évoquée la partie la plus pittoresque du Haut-Tonkin, où se trouvent quantité de curiosités naturelles, on tombe sur un petit lexique manuel de conversation à l'usage des vacanciers, dont voici en français les premiers rudiments. Va chercher un pouce, va vite, va doucement, tourne à droite, tourne à gauche, retourne en arrière, relève la capote, baisse la capote, attends-moi là un moment, conduis-moi à la banque, chez le bijoutier, au café, au commissariat, à la concession. C'était là le vocabulaire de base du touriste français en Indochine. Bonjour.
Merci. Donc, Eric.
Merci Guénaël pour la présentation. Merci au festival et Fraction. Alors, bon, t'as dit beaucoup de choses. Je pars un peu. Alors, sur ce qui est à l'origine, puisque c'est l'objet de ta question, d'un livre. Bon, tout d'abord, au fond, comment dire, d'une certaine façon, peu importe, enfin, pour ce qui me concerne, nos désirs, en dernière instance, on écrit tous pris, tout de même, dans un fond beaucoup plus vaste de détermination sociale et politique qui nous échappe, évidemment, pour une part, et dans lequel on est plongé. Alors, je songeais, du coup, ce matin, enfin, après, à partir de certaines relectures, j'avais fait des photocopies et je relisais quelques passages, et il me semble que ça pourrait illustrer d'une certaine façon ce que je veux dire. J'ai photocopié un petit passage d'Une chambre à soi, le livre de Virginia Woolf, sur lequel elle médite sur la littérature et le rapport des femmes à la littérature, donc, et quelque chose, évidemment, qui est un phénomène, justement, social, d'inégalité, d'asymétrie, donc, entre les hommes et les femmes. Et il y a juste deux petits passages, enfin, il y en aurait beaucoup d'autres, mais qui m'ont beaucoup marqué. Elle cite un certain nombre de grands romans, Léo de Hurlevent, Middlemarch, et elle dit: ces bons romans furent écrits par des femmes qui n'avaient de la vie que l'expérience qui pouvait entrer dans la maison d'un respectable pasteur. Mieux encore, écrits dans le salon commun de cette maison respectable et par des femmes si pauvres qu'elles ne purent se permettre d'acheter plus de quelques rames de papier à la fois pour écrire les Odes Hurlevent ou Jeanne Eyre. Et puis un peu plus loin, elle écrit ceci. Au même moment, de l'autre côté de l'Europe, il y avait un jeune homme qui vivait librement avec telle grande dame, allait à la guerre, ramassant sans qu'intervienne ni obstacle ni censure toute cette riche expérience de la vie humaine qui plus tard lui rendra de si magnifiques services quand il écrira ses livres. S'il avait mené au prieuré une vie retirée avec une femme mariée à l'écart de ce qui s'appelle le monde, quel qu'édifiant qu'eût pu être ce spectacle, Tolstoï n'eût certainement pas écrit « Guerre et paix ». Et donc là, ce que dit vraiment Virginia Woolf, c'est précisément que, au fond, le désir, c'est bien, d'accord, mais que tout ça est pris dans un fond beaucoup plus large, comme je le disais, qui nous échappe très largement, c'est-à-dire que quand Jane Austen écrit, elle écrit au fond à partir d'une expérience très mince, c'est-à-dire elle a le prieuré paternel, le salon dans lequel elle est, les enfants dont elle s'occupe, les œuvres charitables, vous voyez, et la grandeur, on peut dire, de ses livres vient du fait qu'elle est fidèle à cette expérience. C'est-à-dire que les livres de Jane Austen ne cherchent pas à inventer, au fond, sur un fond imaginaire, disons à la Walter Scott, vous voyez, des histoires qui lui échapperaient largement. Au contraire, elle se tient rivée à cette expérience qui est la sienne, et tout ce qu'elle nous raconte, ce sont au fond des drames liés à une nurse, une gouvernante, une jeune femme, pris dans exactement le même milieu que le sien, si bien que son expérience est parfaitement adéquate à ce qu'elle dit, et qu'elle nous apprend quelque chose, et que ses livres sont encore vivants aujourd'hui. Puisque, si la situation évidemment des femmes n'est plus la même en Grande-Bretagne ou en France qu'à l'époque où elle a écrit, dans la petite gentry anglaise, néanmoins, ce type d'asymétrie existe encore, évidemment, chez nous comme ailleurs, et de toute façon, le type d'inégalité qu'elle décrit traverse encore la vie sociale et la sature, en quelque sorte, et l'organise toujours. Donc ça, voilà, c'était la première chose. Alors, un peu plus loin, dans le même livre, voilà, Virginia Woolf écrit ceci. Tous les grands romanciers tels que Thackeray, Dickens ou Balzac ont écrit une prose naturelle, rapide, sans être négligée, expressive, sans être affectée, possédant une couleur personnelle, sans pour cela cesser d'appartenir à la communauté. Ils se sont appuyés sur la phrase qui était courante à l'époque. Et à peine plus loin dans la page, elle écrit « Austin, donc Jane Austen, la regarda, en rit et inventa une phrase parfaitement naturelle, bien tournée, propre à son usage personnel et dont elle ne s'est jamais départie. Ainsi, avec un moins grand génie d'écrivain que Charlotte Brontë, elle parvint à dire infiniment davantage. » Et c'est tout à fait lié là à ce que je viens de dire, mais ça touche à un point plus vif encore, qui est ce qu'on appelle le style, vous voyez, l'écriture. C'est en principe le lieu dans lequel la subjectivité humaine, au sens le plus profond, le plus intime, ce qui nous échappe, devrait, vous voyez, se révéler. Alors, évidemment, c'est bien ce lieu dont il s'agit, puisqu'elle parle, elle regarda cette phrase, elle rit, donc c'est bien Jane Austen qui a commis cette opération. Mais en fait, on voit que cette opération consiste néanmoins à adopter tout d'abord la phrase qui était la plus courante à l'époque, à la défaire légèrement pour parvenir, avec un génie moins grand que justement Brontë, à dire infiniment davantage. C'est donc une opération qui, pour le coup, vraiment concerne la vie sociale, c'est-à-dire ce qu'à la Révolution française, dont elle a été la contemporaine, on appelle l'universel. Au fond, c'est une relation à ça. Donc je crois que les livres, au fond, que ce soit les miens, que ce soit ceux des autres, naissent de cette façon-là. C'est-à-dire, c'est dans un rapport à ce qu'on peut appeler la prose, c'est-à-dire une langue qui est liée à un rapport universel depuis au moins la fin du XVIIIe siècle, et puis en essayant en tout cas d'être le plus fidèle possible à quelque chose qu'on a autour de soi, ou qu'en tout cas on peut tenir dans la main comme des archives, des traces du passé, et des photographies. Alors, pour en venir à ce petit passage de mon livre au début, c'est que au fond, les livres, en tout cas pour ma part, je décrète pas un jour d'écrire sur l'Indochine ou sur le 14 juillet comme si c'était, je sais pas, une tranche d'histoire qui m'intéresserait particulièrement ou par un goût pour ceci ou cela, pas du tout. Ça vient d'une rencontre hasardeuse, en fait, avec une photographie, un texte, une phrase, quelque chose au fond qui vient troubler l'idée que je pouvais me faire de telle ou telle époque, telle ou tel thème, telle chose qui, comme vous tous, pouvait m'intéresser, enfin sur laquelle je pouvais lire des livres depuis plusieurs années, regarder des films. Et là, en l'occurrence, donc, c'est plusieurs choses, puisque, au fond, évidemment, tu évoquais tout à l'heure le rapport aux archives. Mais le rapport aux archives, comment dire, je ne sais pas que je me méfie du mot d'archive, mais le mot archive, on le voit bien, emporte avec lui une forme d'autorité, en quelque sorte. C'est-à-dire, quand on dit vous allez dans les archives, c'est une activité respectable, éminente. Comment dire, il y a quelque chose de scientifique. Or, bien sûr que dans le livre, je suis allé dans certaines archives, etc. Mais ce n'est pas les archives qui ont déclenché, en tout cas pour ma part, ce que tu appelais le désir d'écrire, etc. C'est au contraire justement un autre type de document qu'on peut à peine appeler document, d'ailleurs des choses qui nous tombent sous la main et qui dans l'existence nous troublent. Et donc en l'occurrence, il y a eu ce petit guide de voyage. Donc on m'a offert ce guide, j'ai commencé comme je raconte d'une certaine façon là au départ, je l'ai feuilleté, je suis tombé sur cette publicité de la maison Ridley et compagnie qui m'a fait un drôle d'effet, vous voyez des armes de chasse pour touristes, alors bien sûr des armes de guerre plutôt et de chasse pour touristes, évidemment ce sont des armes de guerre sans doute pour chasser le gibier, mais enfin vous voyez ça fait tout de même une drôle d'impression et puis surtout ce petit lexique. C'est-à-dire, je tombe sur ce petit lexique, je commence à le feuilleter et on voit tout d'abord qu'il trace une espèce de géographie de la domination, la plus évidente, c'est-à-dire la concession, le commissariat, l'église, vous voyez, bon, ça forme un ensemble assez cohérent. Et puis surtout le ton. C'est-à-dire chacun des mots, chacune des expressions qui étaient traduites en vietnamien, on aurait pu mettre un point d'exclamation derrière. On peut dire s'y déploie une sorte de grammaire de la servitude, et comme je le dis, sans qu'il y ait aucun mot de politesse. Alors, tout ça s'est articulé avec d'autres choses, c'est-à-dire qu'au fond... évidemment, on peut se dire, bon, c'est une époque donnée, c'est une époque lointaine, bon, les gens étaient ingénus, ils ne se rendaient pas compte, bon, et voilà. Ils voyageaient, ils étaient tout de même curieux des autres, mais enfin, voilà, c'est vrai qu'ils allaient de la concession au café et au commissariat de temps en temps, quand ils avaient perdu leurs affaires. Bon. Sauf que ce que Bloch appelle la solidarité des âges, on peut l'envisager de différentes manières. Ce qui m'a troublé, c'est qu'en lisant Tchekhov, des carnets qu'il a laissés après son voyage à l'île Sakhaline, où il est allé mener une enquête sur le bagne de Sakhaline, il fait une escale à Hong Kong et il prend lui aussi un pouce-pouce, comme le petit lexique, qui est principalement adressé au pouce-pouce, le suppose. Dans ces pays-là, on prend un pouce-pouce. Et donc, il raconte, il met en note, « J'ai pris un pouce-pouce, je me suis fait traîner par des hommes ». Et donc, on voit bien que pour lui, quelques 30 ans avant, au fond, le petit guide de voyage, dans lui qui appartient à une société infiniment plus rétrograde, au fond encore, que l'Empire colonial français, eh bien, perçoit aussitôt qu'il y a là quelque chose de curieux dans l'effet d'être traîné, comme il le dit dans cette expression qu'il invente, qui est à lui, par des hommes. Et donc, dans cette idée, vous voyez, de solidarité des âges, ça vient inverser presque ce qu'en dit Bloch. On n'est pas, comment dire, c'est pas seulement que des douleurs, des inégalités traverseraient les âges, c'est que finalement on peut avoir quelqu'un qui vit 30 ans avant et qui soit finalement moins rétrograde dans un univers pourtant qu'il est infiniment plus que qu'un groupe qui se trouve 30 ans après dans une autre situation, et tout ça est tout de même curieux et nous incite à repenser l'idée selon laquelle les mondes sociaux seraient étanches, les manières de penser lointaines seraient exotiques et donc auraient été hermétiques à certaines, je ne sais pas, valeurs, à certaines inégalités, etc. Et puis d'autre part, il suffit d'aller regarder nos guides de voyage aujourd'hui pour voir qu'au fond ils sont pas indemnes de petits problèmes. Donc je suis allé sur les forums, regarder sur les guides, et je vois que l'une des obsessions de nos guides de voyage consiste dans ce qu'on appelle la sécurité, les sollicitations pénibles et les marchandages. Alors évidemment, pas les guides de voyage pour Londres ou pour Madrid, non, les guides de voyage pour le Vietnam, l'Inde, etc. L'un des soucis des vacanciers, de nous tous d'ailleurs, c'est de ne pas payer trop cher une course en cyclopousse. Justement. Et ce qu'on nous dit en général, c'est bon, bien sûr, les sollicitations sont pénibles, bon, mais il faut savoir être patient, voilà. Donc, il y a d'aimables appels comme ça à la patience. Et puis ensuite, on nous explique entre deux pagodes, bon, le prix doit être d'1,50 €, qu'il est le cas échéant négociable à 1 €, et que vous pouvez toujours laisser un tip. Vous voyez ? Et il n'est pas sûr tout de même que quelqu'un qui vivait peut-être 30 ans avant nous, mais d'un peu plus éclairé, à la lecture de ce guide, ne trouve pas tout à fait choquant, bizarre, qu'on négocie à ce point, compte tenu de la valeur de l'euro pour nous, vous voyez ce que vaut 1,50 €. Donc on a des soucis qui sont tout de même étranges et qui, au fond, ne me paraissent pas si lointains de ceux du petit guide de voyage. Alors, c'est toutes ces choses prises ensemble, d'une certaine façon, qui forment ce qu'on pourrait appeler une sorte d'optique, en fait, vous voyez, quelque chose qui permet de voir, de regarder un peu différemment, qui sont venus, je le disais, un peu troubler les idées que je pouvais me faire. Et puis, il y a eu d'autres... Je rechigne un peu les AP documents, enfin d'autres choses qui me sont tombées sous les yeux, notamment, je pense à un petit film des Frères Lumière, qui m'a fait un drôle d'effet. Donc en fait, je ne cherchais pas du tout quoi que ce soit sur l'Indochine. J'étais en train de regarder, il y a un catalogue des films des Frères Lumière, où on en trouve un certain nombre, beaucoup en fait, visibles. Donc j'en regardais, et je cherchais en fait un film que j'avais vu il y a longtemps, qui est un très beau film qui s'appelle, je crois, Bataille de boules de neige. Et j'en avais gardé des images, je voulais le revoir. C'est des petits films film de 40-45 secondes à peu près. Et donc j'ai retrouvé ce film, La bataille de boules de neige, qui est très beau, un peu mis en scène. On voit un vélo qui passe, des gens se lancent des boules de neige. Ça nous rappelle tous, je crois, l'enfance. D'abord le noir et blanc et puis la neige. Enfin bon, voilà. Donc je regarde et puis en regardant un peu plus, je tombe sur différents films que je visionne également jusqu'au moment où je tombe sur un titre qui est Enfant anamite, c'est quoi, ramassant des sapèques devant la pagode des dames. Et là, je me dis, c'est un conte de titre oriental, ça, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, enfant anamite ramassant des sapèques devant la pagode des dames, ça fait beaucoup, quoi, c'est du Marguerite Yourcenar. Je me dis, bon, je vais aller voir ce que c'est. Donc, je regarde le film, et là, je tombe sur une scène très étrange. Comment dire ? J'ai un effet. C'est comme si j'avais vu deux films. Au début, on voit principalement deux dames en crinoline, tout en blanc. Elles ont un petit sac à main chacune. Elles sont devant une pagode. On voit bien qu'il y a des gens devant, mais c'est elles qu'on voit tout de suite. Je veux dire à la première seconde, parce qu'elles sont d'abord immaculées. Voilà. On les voit à elles, hop, elles apparaissent. Et puis l'instant d'après, on se rend compte qu'il y a un grouillement en fait de jeunes enfants devant. Et là, elles ouvrent leur petit réticule, leur petit sac à main, et à pleine poignée, elles jettent des choses. Alors, comme on ne sait plus exactement ce que c'est que des sapèques, bon, j'avais bien l'idée que c'était des pièces de monnaie, mais ça reste assez vague. Vous voyez, on se demande ce qu'elles jettent, et c'est un geste en plus. Vous voyez, c'est le même geste que la fermière qui jetterait du grain aux poules. Enfin, c'est exactement pareil, elles jettent comme ça. Donc, c'est une scène bizarre, à plus d'un titre. C'est comme s'il y avait plusieurs scènes. On voit d'abord les crinolines, le blanc immaculé, puis les enfants devant, puis on s'aperçoit qu'ils sont en loque. Et puis, tout à coup, il y a ce moment très fugace, mais tout à fait troublant, où un enfant nous regarde, fait ce qu'on appelle un regard caméra, ce qui a été longtemps interdit, et Dieu merci, lui s'en fiche. Alors, il regarde la caméra, et c'est sans doute le seul moment de réalité du film. C'est-à-dire, je ne souscris pas du tout au point de vue selon lequel l'art serait du côté ou la littérature de la fiction, et bon, etc. Là, en l'occurrence, on assiste à un documentaire, mais dans ce documentaire, presque tout est de la fiction, sauf le regard de l'enfant. Le moment où il nous regarde, de manière assez sérieuse, c'est à la fois fugace et profond, nous pénètre et crée, lui, justement, en un autre sens, une solidarité des âges. C'est-à-dire, il nous requiert. On ne peut pas regarder ce film de la même manière après son regard, surtout que cet enfant hésite à ramasser les pièces. Après, il se retourne à plusieurs reprises. Il sent bien qu'il y a quelque chose, justement, de tout à fait fictionnel dans cette scène et de tout à fait bizarre. Et elle est fictionnelle à plus d'un titre, puisqu'on peut tout à fait se douter assez vite qu'il y a des gens sur le côté en train d'organiser tout ça. Les mouvements des enfants ne sont pas naturels. Et puis la valeur de la sapèque, c'est-à-dire que quand on se renseigne, il faut 800 sapèques à l'époque pour faire 20 sous. Alors vous voyez ce que ça peut représenter, c'est-à-dire rien. Et donc on leur jette rien en fait. Alors ils sont sans doute très pauvres, hein, donc ils ont sans doute besoin de ce rien. Mais le fait qu'on leur jette doit être un petit peu étrange. Donc j'imagine, on les voit regarder sur le côté, on imagine assez bien que quelqu'un leur dit « Allez, vas-y, ramasse !» Il y a 43 secondes, vous voyez, donc il ne faut pas qu'on perde de temps. Il faut qu'il y ait une action, qu'il se passe quelque chose dans le petit documentaire. Et puis... Après, j'ai approfondi, évidemment, je me suis demandé, mais qui sont ces dames ? Parce qu'on pourrait, là aussi, toujours dans l'idée qu'on est dans le passé, un passé lointain, se dire, finalement, ce sont des voyageuses ingénues qui se sont perdues là, elles sont allées visiter cette magnifique pagode, et puis à la sortie, il y a un homme à côté d'elles, le vietnamien, qui doit leur dire, la coutume ici, c'est de jeter des sapèques, donc elles jettent des sapèques, elles se font piéger par l'opérateur Vane des Lumières, là, bon, ce petit salopard, là, les films, et pour l'éternité, elles ont l'air de deux dames qui jettent des pièces à des mendiants, c'est odieux. Bon. Or, quand on se renseigne, ce sont madame et mademoiselle Doumer, c'est-à-dire que l'une est la femme de Paul Doumer, gouverneur général de l'Indochine, et l'autre sa fille. Ce ne sont donc pas du tout des oies blanches qui sont venues là par hasard. Elles savent parfaitement où elles sont, et elles sont très informées pour autant qu'on peut l'être. Alors elles ne vivent pas dans un petit prieuré comme Jane Austen. Bon, elles ont finalement une vision panoramique plus large, mais elles ne voient rien. Voilà. C'est que donc on peut vivre, comme je le disais, dans un petit prieuré et raconter des choses tout à fait justement à la hauteur de ce qu'elles voient en ayant en étant perspicace, voyez, en essayant de coller, de ne rien inventer, de raconter les véritables drames au fond qui se nouent dans la vie sociale, c'est ce que fait Jane Austen. Et puis on peut avoir une vue panoramique, être la femme du gouverneur de l'Indochine, être même gouverneur d'Indochine soi-même, puisque je ne pense pas que Paul Doumer voyait davantage de choses, et puis ne rien voir du tout. Et pour preuve, Paul Doumer, c'est un homme qui a été président de la République un peu plus tard, qui a organisé notamment, au moment où ce petit film a été pris, il est en train d'organiser. Il fait différents allers-retours entre l'Indochine et la France pour organiser une levée de fonds. et un vote à l'Assemblée nationale, une levée de fonds pour construire une voie ferrée dans le Haut-Tonkin. Alors, il faut que la civilisation aille jusqu'au Haut-Tonkin, où jusqu'à présent, rien ne se passait, quelques vagues paysans piochaient depuis des siècles, mais Dieu merci, Doumer arrive à l'idée de faire construire comme ça un magnifique chemin de fer, mais pour ça, il faut de l'argent, donc il va voir Paribas, enfin des banques qui existent encore, la Société Générale, d'autres qui ont disparu, et puis, donc il faut d'abord des investisseurs, et il faut ensuite que le Parlement autorise la construction, etc., et puis l'État français va participer, les impôts, et donc à partir de là, c'est toute une opération financière qui s'organise. Ce chemin de fer existe. Il est d'ailleurs dans tous les guides de voyage aujourd'hui, où on nous recommande de le prendre, d'aller le voir pour admirer, nous dit-on, les prouesses de nos ingénieurs. Alors, ce n'était pas vraiment pour balader les touristes. À l'époque, c'était pour balader du minerai, puisque bon, c'est un bénévole, Paul Doumer, mais bon, la réalité, c'est la réalité tout de même. Et la réalité, c'est que les touristes dans le Haut-Tonkin, à part quelques chasseurs égarés avec leurs carabines de guerre, les gens viennent là pour chercher du minerai. Il y a des gisements de houille, etc., etc. Et puis, pour construire un chemin de fer, pour faire ses prouesses, justement, c'est-à-dire pour trouver des tunnels, pour construire des ponts dans des gorges, vous voyez, des précipices, eh bien, il faut des coulis, c'est-à-dire des travailleurs forcés. Il en faut 60 000, et sur 60 000, eh bien, il en mourra 12 000. Ce qui signifie qu'on est vraiment dans le cadre d'un travail forcé de très haute intensité. Et donc, tout ça, vous voyez, s'organise ensemble et fabrique la petite optique, c'est-à-dire le guide de voyage dans lequel il n'y a pas de terme de politesse, c'est uniquement cette grammaire de la servitude qui nous est pénible aujourd'hui quand on la lit. Et puis, ces dames qui jettent des sapèques, l'époux qui, lui, organise un consortium. Et puis, au finish, 12 000 morts dont on peine d'ailleurs à parler, puisque dans les livres aujourd'hui, on en parle dans des termes qui sont le taux de mortalité sur les chantiers de construction était de... Voyez. Mais à 12 000 morts pour 60 000, il me semble que le terme de l'expression taux de mortalité ne convient pas.
Merci. Je vais partir de ce premier chapitre, ne pas y rester, ben vous inquiétez pas, hein, sinon on en a pour 3 jours, mais pour le relier à l'ensemble du livre. Il y a quelque chose dans le déroulement de ce chapitre qui est très intéressant, hein, cette ouverture. C'est-à-dire qu'on a eu le guide de voyage, et puis, page suivante, on est en 1928, une visite des inspecteurs du travail dans les plantations de latex, et les conditions, là aussi, de travail forcé. Et eux-mêmes, donc, soit vous l'avez lu, soit vous le relirez, vous verrez que vous venez d'illustrer magnifiquement ce qui leur arrive ou ce qui ne leur arrive pas assez, c'est-à-dire que leurs yeux ne se dessillent pas. Quoi. Il y a quelque chose qu'ils voient, qu'ils ne voient pas. Et que nous, on nous fait voir, hein, comme vous l'avez dit. Ça nous fait voir à la fois qu'il y a quelque chose et qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas à l'époque. Et ça va jusqu'à au guide de management de l'époque qui définissent de loin, la façon de faire travailler ces gens de façon forcée, mais qui ne se dit
pas. C'est plus que les guides de management, c'est l'inventeur du management, ouais. C'est Taylor, qui est donc l'inventeur de ce qu'on appelle le taylorisme. Donc c'est la base même de la standardisation, disons, du travail et de la vie sociale.
Et donc ce chapitre-là est exemplaire de cette circulation-là, hein, d'un document, même si je prends les précautions, d'un document à une autre forme de source, pour... c'est cette histoire de dessiller les yeux dont vous nous avez parlé. Mais à l'échelle du livre, ça me semble être exemplaire aussi. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, ce n'est pas tout à fait un angle mort, puisque le dernier chapitre, c'est la chute de Saïgon. Donc, évidemment, la guerre d'Indochine telle que vous l'envisagez, elle ne va pas de 46 à 54, mais là, dans votre livre, elle va de 1923 à la chute de Saïgon dans les années 70, quand les Américains s'en vont. Première chose. Mais également... Le livre lui-même est organisé majoritairement sur l'incurie de l'armée française, les décisions lâches et veules de ces puissants, de ces décideurs, donc, et les fameux Vietnamiens, Indochinois, sont là, mais pas là. Sauf qu'ils sont là à la toute fin, en postface, et elle est très importante, me semble-t-il, cette note, parce que vous n'en faites pas forcément. Et elle arrive avec une grande sobriété stylistique à la toute fin, après que le texte soit fini, après la chute de Saïgon. Note, du côté de la France et des États-Unis, il y eut en tout 400 000 morts, si l'on compte les tirailleurs, les supplétifs indochinois, troupes coloniales qui formaient l'essentiel de notre armée. Du côté vietnamien, la guerre fit au moins 3 600 000 morts. 10 fois plus. Cela fait autant que de français et d'allemand pendant la Première Guerre mondiale. Et ça a bien un statut de note, hein, c'est-à-dire que c'est écrit plus petit. Donc c'est pour ça que je parle d'angle mort, de quelque chose qui se fait en contrepoint, qui se dit discrètement, et qui n'en est pas moins majeur, je pense, dans le sens que revêt ce livre. Pour redoubler aussi ce que vous disiez sur le décilement et nous faire voir quelque chose, nous faire voir une petite chose qui est en fait essentielle. Et là, deux choses. À la fois que je pense que même si on le sait, notre premier réflexe en pensant guerre d'Indochine, ça va être 46-54. Après, on va se corriger, se dire oui, bon, d'accord, on peut voir les choses autrement, mais c'est le premier réflexe, celui des livres d'histoire, voilà. Notre premier aveuglement, si j'ose dire. Et puis, le deuxième, c'est effectivement l'invisibilisation totale de ce qu'on peut appeler l'ennemi, l'Indochinois, ceux qui se libèrent. Cette espèce de masse grouillante, hein, puisque c'est aussi comme ça qu'on nous l'a décrit et que l'on décrit les politiques et tous les lieux communs sur ces guerres-là, hein, l'invisibilité dans la jungle, la petite taille dont vous parlez, hein, les propos racistes autour de... et ça me semble être essentiel dans ce livre-là. La façon dont vous procédez par un contrepoint aussi, pour jusqu'à attendre cette note pour nous faire voir quelque chose qui n'était pas le plus visible, mais qui est essentiel. Vous voyez, pour un peu redoubler ce mouvement de décilement dont vous parliez concernant vous-même, hein, enfin, au départ, ce qui vous apparaît, un trouble dans le regard, vous décidez de regarder autrement, mais c'est aussi ce qui reproduit le livre. Il nous propose de tenter de regarder autrement temporellement, géographiquement, et puis à l'échelle des phénomènes.
Oui, c'est qu'il me semble que, tout d'abord, je suis tout à fait d'accord, l'idée, la séquenciation qu'on peut faire de nos guerres en général et qui nous apparaît comme évidente est totalement discutable, même, je sais pas, y compris la Seconde Guerre mondiale. Pour les Chinois, vous voyez, 39-45, c'est très curieux, ça commence bien avant. Donc, du coup, il y a vraiment, dans les évidences même, vous voyez, les séquenciations les plus solides, d'ailleurs, même pour nous, ça se discute, vous voyez, 39-45, c'est vraiment une vision, pour le coup, très française, presque. Bon. Donc, de la même façon, il me semble que les guerres coloniales, il est curieux de les dater du moment où l'intensité du conflit est telle, effectivement, que, disons, on décrète qu'il y a un phénomène, d'ailleurs pas au départ, puisqu'on parle d'événements, souvent on euphémise, mais en tout cas après que là, la guerre démarrait. En réalité, la guerre démarre le jour de la conquête. C'est-à-dire, pour ce qui concerne le Vietnam, c'est autour de 1860, à peu près, après plusieurs opérations ratées et réussies, militaires de très haute intensité, que la France commence à occuper quelques parties de ce qu'elle appellera l'Indochine. Et donc, c'est à ce moment-là que commence la guerre d'Indochine. Et puis, il va y avoir d'ailleurs des insurrections très régulières, des ce qu'on appelle, nous, mutineries de certaines troupes, justement, de supplétifs, etc. Enfin, des attentats très nombreux, sans cesse, en fait. Et puis, petit à petit, effectivement, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la constitution d'un corps d'armée véritable, d'abord dans des activités de guérilla, puisqu'évidemment, l'armée française, elle, va être d'ailleurs la seule jusqu'au bout à disposer d'une aviation. Hein, bon. Et puis, ensuite, dans des opérations à partir de 1950, de guerre à proprement parler. Bon. Donc, voilà, je pense qu'il faut revoir, effectivement, les séquences. Et c'est un enjeu, on le voit bien, c'est au fond un enjeu politique, c'est-à-dire la dater de 45 ou 46, c'est une datation qui voudrait dire qu'il y a une sorte de stase qui aurait duré de 1860 jusqu'à cette date, dans laquelle la colonisation a eu lieu comme quelque chose qui n'était pas contesté par les autochtones. Voilà, ils ont trouvé ça pas mal pendant tant de temps, et puis à un moment, finalement, après-guerre, ils se sont réveillés brusquement et se sont dit que ça suffisait maintenant, ils avaient appris à cette chose grâce à nos missionnaires et à nos enseignants. Et donc ça, c'est le premier point. Le second, alors, c'est qu'au fond... lié à ce que tu disais de la façon dont dont certaines choses peuvent venir troubler notre regard, c'est que donc je suis tombé sur ce texte, ce rapport confidentiel à une inspection du travail. Alors c'est le terme, ce qui m'a retenu d'abord, c'est le titre. Voyez, d'abord confidentiel et inspection du travail. C'est que là, il y a quelque chose de très contemporain au fond. Voyez, on a des problèmes. Nous, il y a pas assez d'inspection du travail. On sait qu'on a tendance à la réduire, à réduire ses prérogatives. Et là, au contraire, on est à la naissance, au balbutiement d'une vague inspection du travail, d'un tout petit code. On nous dit aujourd'hui beaucoup. Enfin, on l'a dit un temps. temps, on continuera de le dire, que le code du travail est trop épais, vous voyez, c'est énorme. Là, il était vraiment très petit, donc c'était, il faut bien le dire, assez pratique. Et donc, on a, sur la base d'un tout petit code, de quelques ordonnances qui ont été rendues, une première inspection suite à une, justement, à un mouvement de contestation très grand à l'intérieur, avec un mort, de la plantation Michelin, qui donc a éveillé l'attention des autorités. Alors, tout d'abord, en lisant ce document, évidemment, on est pris tous par une langue, qui est la langue bureaucratique. Alors, c'est d'ailleurs même pas pour la critiquer que je dis ça, c'est qu'au fond, il est sans doute nécessaire, vous voyez, qu'il y ait une sorte de standardisation juridique de la langue qui permet à ceux qui sont spécialistes, en l'occurrence du droit du travail, de savoir quelles ont été les atteintes portées au droit. Seulement, il se trouve que quand on la lit tout de même, on est troublé par, je sais pas comment dire, le frottement ou l'écart très curieux entre cette langue bureaucratique et ce qu'elle est tout de même en train de discuter, de qualifier juridiquement. C'est-à-dire des faits qui, en fait, s'apparentent à de la torture. Donc, il s'agit par exemple de savoir au petit matin si deux types attachés par un fil de fer en loc sur le bord de la route et emmenés par un contremaître, vous voyez, on peut imaginer leur cheville usée par le fil de fer quand on les tire, si c'est du droit du travail, si c'est dans le droit du travail correct ou pas correct. Mais il se trouve que c'est correct. Ce sont donc l'inspecteur arrête la voiture, interroge le contremaître qui lui dit ce sont des déserteurs. Ce qui signifie qu'à l'époque, en fait, les contrats de travail ne permettaient pas aux coolies vietnamiens de quitter les lieux de travail pendant 6 mois. Et puis ensuite, c'était vaguement tacitement reconductible. Donc, paf, tout à coup, ils se rendaient compte qu'ils avaient rempilé pour 6 mois, où ils étaient endettés, puisqu'ils avaient cantiné à l'intérieur du camp dans lequel ils travaillaient. Donc, vous voyez, c'est un contexte de droit du travail très curieux, ce qui fait que la qualification juridique, le rapport au droit du travail et à ce qui nous est raconté est tout de suite vraiment troublant, en fait. Mais il l'est encore plus quand on l'écrit. Puisque quand on reprend à son compte et qu'on fait sortir tout à coup de cette langue bureaucratique les scènes qu'elle nous raconte et qu'elle nous rapporte très bien, par ailleurs, de façon très détaillée, puisque je n'invente aucun des dialogues qui sont dedans, ils sont rapportés par Delamarre, l'inspecteur du travail, fidèlement, donc il fait son travail. Enfin, je ne critique pas le travail qui a été effectué. Mais,
vous l'avez trouvé où, ce rapport confidentiel? Là, dans des archives?
Oui, tout à fait. Oui, ça vient des archives d'outre-mer. Et par ailleurs, cette archive a été utilisée, j'ai vu dans un autre livre que j'ai connu plus tard, pendant que je travaillais, d'Éric Pantout, je crois, qui a écrit un livre qui est à la fois sur, qui concerne cette plantation, à la fois cet événement, mais aussi beaucoup d'autres, et qui publie également dans ce livre une archive très intéressante qui est le récit donné par un Vietnamien qui faisait partie, qui travaillait sur cette plantation au moment où Delamarre vient, donc une espèce de contre-champ. Et donc, en tout cas, lorsqu'on écrit ce récit, lorsqu'on le reprend d'une certaine façon à son compte, lorsqu'on y noue sa subjectivité, lorsqu'on défait, lorsqu'on lève au fond, disons, les formes de tabou, ou en tout cas les formes d'euphémisation que la langue juridique introduit dans les faits, eh bien, tout à coup, ils reprennent une autre forme, ils nous heurtent autrement. Et puis, surtout, on est en cours même de narration dans une chose qui a à voir avec l'écriture, mais qui en est, disons, qu'un élément, cette forme qu'on appelle le récit, qui est qu'on est bien obligé de mettre un fait après l'autre. Eh bien, à la différence de Delamarre, on n'a pas les mêmes objectifs. Il ne s'agit pas pour moi de qualifier juridiquement, mais de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, là, tout à coup, par exemple, je me retrouve face à une scène très étrange où, brusquement, l'inspecteur du travail, après un épisode, ce qu'on peut appeler une visite assez Potemkin, où on lui montre des cuisines modernes, voyez, des installations d'infirmerie irréprochables, un personnel diligent, tout à coup passe devant une porte et dit « Mais qu'est-ce qu'il y a là derrière ?» On lui dit « Un débarras ». Et puis, au moment où il s'éloigne, exactement comme au théâtre, vous voyez, dans les vaudevilles, où lorsque un homme et une femme se retrouvent au premier plan et que, tout à coup, la femme accuse son mari d'avoir une maîtresse et qui nie, pas du tout, et qu'on entend un gémissement dans le placard, vous voyez, et les spectateurs, ah bon, voilà, eh bien, on entend à ce moment-là, quand Delamarre s'éloigne, des gémissements, donc Delamarre se retourne, demande à ce qu'on ouvre la porte, et là aussi, vraiment, dans quelque chose qui, lorsqu'on lit dans la langue bureaucratique, apparaît, ce sont comme des péripéties tout à coup, lorsqu'on est obligé de le reprendre à son compte, eh bien, ça apparaît comme inquiétant, en tout cas. C'est tout à coup, ça s'aggrave d'autre chose, qui est que Delamarre demande à ce qu'on ouvre la porte, et on lui dit, le directeur de la plantation dit, mais j'ai pas les clés. Alors il dit, bah, allez chercher tout de suite, enfin, ou défonçons la porte. Et là, hop, le type retrouve les clés. Il dit, ah, mais finalement, je les avais, pardon. Et donc, tout ça est au fond, sont des péripéties qui, lorsqu'on les reprend à son compte, lorsqu'on écrit, lorsqu'on les met en récit, en quelque sorte, et qu'on est obligé de décrire, deviennent véritablement inquiétantes, puisque c'est quoi ? Il s'agit de l'hypocrisie, vous voyez, de la dénégation la plus outrée, enfin la plus invraisemblable. C'est-à-dire, vous entendez des gémissements derrière une porte, le type vous dit qu'il n'a pas les clés, tout à coup il les a. Il y a un rapport, il est en train d'essayer d'intimider en fait l'inspecteur du travail. Je n'ai pas les clés, puis l'autre dit je vais défoncer la porte. Alors là, bon, d'accord, bon, j'ai les clés, je les sors. Donc, tout ça est très pénible en fait. Et puis, surtout l'instant d'après, quand on ouvre la porte, on tombe donc sur un coulis vietnamien attaché par une main à une barre de justice, nu, sauf les parties génitales qui se cachent, qui tentent de cacher comme il peut avec l'autre main et un bout de chiffon sale. À ce moment-là, Delamar approche et s'aperçoit qu'il a le dos lacéré de coups et qu'en gros, il est en train de mourir. Donc, ce qui à ce moment-là est dans la langue, au fond, vous voyez, bureaucratique, un problème qui est, alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il demande pourquoi il est là. Oui, on est face à quelque chose qui est sidérant, c'est-à-dire on est face à la preuve réelle, c'est-à-dire le flagrant délit de torture, c'est-à-dire le travail forcé, c'est ça en fait. Et à ce moment-là, le directeur de la plantation a cette phrase vraiment troublante. Il se rue sur le coulis attaché. Il dit « pourvu qu'il ne se soit pas mutilé ». Alors là, vous êtes vraiment face à l'impossible. C'est-à-dire qu'en réalité, en écrivant cette réplique de Trière, donc le directeur de la plantation, m'a fait saisir quelque chose que je n'avais pas saisi auparavant. C'est vraiment en l'écrivant que ça m'est venu. C'est qu'au fond... La colonisation, c'est un fait social très complexe, mais il a une caractéristique, enfin il en a deux, disons, une qui partage avec d'autres faits sociaux, qui est qu'il s'agit d'extraire de la plus-value. Voilà. Bon, on a des ressources naturelles, il faut les exploiter, on a des coulis, on ne les paye pas, ou très peu, et voilà, on peut du coup retirer du charbon, on peut cultiver de l'EVA, vous voyez, bon. Donc ça, c'est, mais ça, les entreprises font ça, si vous voulez, pas de la même manière, mais c'est pas... Bon. Le second point, c'est que c'est une dénégation, en réalité, de ce que c'est. C'est-à-dire, la colonisation est un phénomène qui dit « je ne fais pas ça, pas du tout. Je suis venu, en réalité, ici, pour convertir les anamites, vous voyez, à la religion catholique. Je suis venu ici pour les enseigner, pour amener la civilisation. » Enfin, vous voyez, vous connaissez tous ces discours. Donc, c'est au fond, sans cesse, un phénomène social qui dit le contraire de ce qu'il est, qui dit qu'il est autre chose que ce qu'il est. Il a pour caractéristique de se nier. Et c'est là exactement ce que fait Trière devant ce qu'on appelle en droit un flagrant délit. C'est-à-dire qu'alors que tout à coup, puisqu'on nous dit toujours « mais enfin, vous avez des preuves que ça a été si monstrueux », vous voyez, bon, là, elle y est, la preuve, et bien face à la preuve, le directeur dit « pourvu qu'il ne se soit pas mutilé », et là, on est vraiment face à une scène que la littérature a parfois caractérisée. Vous voyez, dans Gogol, on trouverait des choses comme ça, vous voyez, c'est des personnages qui disent quelque chose de délirant, dans Le Révisor, par exemple, vous voyez, dans une sorte d'affolement, puisqu'ils ont la visite de ce contrôleur qui arrive, donc on est capable de dire tout et n'importe quoi pour échapper à je ne sais quelle punition administrative, vous voyez. Eh bien là, c'est la même chose. La littérature a déjà qualifié ce type d'attitude. On a là une mauvaise foi caractéristique, mais poussée à une sorte de paroxysme. C'est-à-dire, si la réplique n'était pas écrite dans l'inspection du travail, on n'y croirait pas. Vous voyez, on ne peut pas l'inventer presque. On n'oserait pas inventer une telle réplique. Et néanmoins, même si l'inspection du travail, par son langage bureaucratique, d'une certaine manière, est en dessous de la réalité. Parce qu'une partie de la réalité lui échappe. C'est-à-dire, au fond, ce qui nous choque, nous, quand on lit ce rapport, c'est qu'entre ce qui est dit, qualifié, et ce qu'on voit immédiatement et ce qu'on éprouve, eh bien, il y a un abîme, en fait. Eh bien, on peut dire que la littérature aussi, sans doute, mon livre aussi, toute la littérature aussi. C'est-à-dire, j'en donnerai un exemple plus lointain, puisque, bon... Quand est publié par Charlotte Brontë Janer, à ce moment-là, la presse crie au scandale. On trouve que le roman est brutal, vous voyez. On parle d'une femme, d'un homme, puisqu'on ne sait pas que c'est une femme à l'époque, en colère, d'un auteur, vous voyez, en colère. On dit que la description qu'elle fait de l'orphelinat est excessive. On dit que, par exemple, l'espèce de haine que l'on prête au personnage, Jeanne Eyre, face à sa bienfaitrice, vous voyez, quand elle dit « I hate you, Mrs. » je ne sais plus quoi, voyez, tout ça est excessif, brutal, etc. Donc c'est un roman qui choque profondément. Or, aujourd'hui, quand on relit ce très beau roman, qui est toujours très actif, en fait, par ailleurs, eh bien, il est tout à fait en dessous de la réalité des orphelinats de l'époque. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, Charlotte Brontë écrit un peu au-delà de sa visibilité, à la différence de Jane Austen. Elle a vu ce qu'étaient les orphelinats parce qu'elle elle commet des œuvres charitables, donc elle a vu la misère des orphelins, mais elle n'est pas orpheline elle-même. Donc, d'une certaine façon, elle ne peut pas écrire sur une expérience qu'elle a réellement vécue de l'intérieur, si bien qu'au fond, et puis aussi peut-être par prudence, peut-être aussi parce que ne s'est pas ouvert en elle l'espace nécessaire à pouvoir écrire le plus fidèlement possible cette expérience tragique. Et puis, il se trouve que les faits, depuis, il y a eu il y a peu de temps sur Arte un documentaire sur Jersey, un orphelinat à Jersey, où on voyait, donc, je crois, des enfants qui avaient été maltraités, certains morts, enterrés, dissimulés, des maltraitances diverses et variées, sexuelles, etc. Donc, bien longtemps après, donc on peut imaginer ce qu'était du coup un orphelinat dans la première moitié du 19e. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si la langue bureaucratique euphémise et que la littérature, au contraire, tente de défaire la fiction, néanmoins, avant que nous puissions rejoindre la réalité, eh bien, il faudra justement que les premiers concernés puissent eux-mêmes, au fond, écrire. Alors, juste, j'ai... En pensant à tout ça avant-hier, avant de venir, j'ai photocopié justement quelques bribes de textes qui rendent compte assez rapidement dans l'histoire littéraire de ce problème. La façon, au fond, dont on traite les autres, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas écrire. En l'occurrence, donc, les coulis, là. Et plus lointainement dans le temps, les paysans, les ouvriers. Alors, dans un texte, je prends des textes très célèbres. Dans le Don Juan de Molière, vous savez, le personnage de Piarot qui se fait piquer par Don Juan sa promise. Et alors, comment parle Piarot ? Il parle comme ça. D'abord, il s'appelle Pierrot, mais sa promise l'appelle Piarot. Ensuite, il dit « Ventre qu'en, je n'y emporterai jamais ». Alors, je ne le cite pas en entier, mais simplement ce « je n'y emporterai jamais » est écrit « je », plus loin, « g-n-i ». C'est-à-dire que Molière, au fond, écrit une langue qui ne peut pas être écrite. Il est en train d'essayer de trouver les moyens littéraires de décrire comment parle un analphabète, de son point de vue, si vous voulez. Et donc, il essaie d'être honnête, d'une certaine façon. Il essaie d'en rendre compte. Au fond, il essaie de montrer le côté oral, tout à fait pour lui. Tout à coup, l'intrusion de l'oral dans l'écrit. Alors, on peut dire que c'est une langue quasi phonétique. Au fond, il essaie d'inventer une langue phonétique. Seulement, on le voit bien, le problème, c'est que comme Molière est très loin d'avoir la vie de Pierrot et la vie d'un paysans, comme les paysans de l'époque sont très loin de pouvoir écrire eux-mêmes, eh bien, c'est un abîme qui est pénible et qu'on ne peut pas combler. C'est qu'à la lecture de Don Juan ou lors des représentations de Don Juan, il y a un effet de comique qui est, bien sûr, par moments légèrement en défaveur de Don Juan, mais globalement en défaveur de Piarot. Donc ça, c'est le premier texte. Et puis, deux siècles plus tard, Tolstoï écrit dans un très grand livre, Anna Karénine, des passages nombreux, mais surtout un très beau passage, à peu près à la moitié du roman, où un des personnages centraux, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui s'appelle Lévine, et qui est, disons, le personnage le plus proche justement du monde paysan, qui est quelqu'un qui l'idéalise même, en quelque sorte, qui est un propriétaire terrien, comme Tolstoï, qui est en somme, d'ailleurs, Tolstoï lui-même, un petit peu, va travailler avec les paysans et faucher. Et donc là, j'ai souligné ce petit passage. Comme les hommes commençaient une nouvelle ligne, le vieux attira l'attention du maître sur un essaim d'enfants à moitié caché par les herbages. Il s'en venait, qui le long de la route, qui à travers champs, apportant aux faucheurs, fardeaux lourds à leurs petits bras, des pains et des cruches de gvas bouchées avec des torchons. « V'là les moucherons qui s'amènent !» dit le vieux. Et s'abritant les yeux de la main, il consulta le soleil. Au bout de deux lignes, il s'arrêta et d'un ton décidé, « Il est l'heure de dîner, notre maître » déclara-t-il. Alors, pour la seconde fois, les faucheurs remontèrent des bords de la rivière vers l'endroit où reposaient leurs vêtements. C'est là que les attendaient les enfants. Ceux qui venaient de loin se glissèrent sous leurs chariots. Les autres s'installèrent sous un bouquet d'osier qu'ils couvrirent pour avoir plus frais avec des paquets d'herbes. Alors là, on voit évidemment que ça a changé. C'est-à-dire, la description, en tout cas, de Tolstoï est beaucoup plus fidèle. Il a lui-même fauché. Il sait un peu ce que c'est. Il connaît la campagne. Et la visibilité, évidemment, qu'il a en tant que maître d'un très vaste domaine, lui donne, disons, une connaissance de la réalité très grande. C'est en somme, d'ailleurs, ce panoramique de grands bourgeois ou de grands aristocrates ou de petits aristocrates est à l'origine d'une grande partie de la littérature réaliste du 19e et fait même en partie sa qualité et aujourd'hui aussi son défaut, puisqu'on y retrouve aussi, avec l'élision du Vla ou notre maître, la même tentative un peu maladroite, un peu bizarre, puisque si on se pose la question de minutes, lorsqu'il fait parler des aristocrates, il essaie pas du tout de contrefaire leur accent, en aucun cas. C'est comme si sa caste, sa classe sociale n'avait aucun accent, aucun tic, pas d'oralité, que finalement, quand c'est Lévin qui parle, c'est la littérature qui parle. Lévin parle comme on écrit. Tandis que précisément, là, le vieux paysan, lui, ne parle pas comme on écrit. Et on tente donc, dans l'écriture, d'introduire quelque chose de cette oralité. Alors, il n'y a plus les coups de pied au cul que reçoit Piarot dans Don Juan. Donc, le côté pantalonnade s'est évanoui. La description est sérieuse, mais ça conserve néanmoins cette dimension. Alors, pour finir...
Eric. Il nous reste 10 minutes.
Oui,
mais j'ai une question que je voudrais vraiment poser pour relier.
T'inquiète pas, tu la poseras, j'arrive à la fin. J'arrive à notre époque. Et avec deux exemples. Bref. Donc. Un, c'est Navel, donc un écrivain ouvrier qui écrit dans un très beau livre que je vous recommande, qui s'appelle Travaux, enfin, vous l'avez peut-être déjà lu, hein, ceci. Dans le village, on ne disait jamais d'une femme qui avait des enfants, madame, entre guillemets, mais la mère, entre guillemets. Toutes les mères se ressemblaient. C'étaient des femmes arides et à larmes. Et un peu plus loin, les mères laissaient toujours couler quelques larmes qu'elles essuyaient avec un grand mouchoir à carreaux quand elles se rencontraient, une posant sa brouette, l'autre son panier, à la croisée d'un chemin de vigne et de la route montant vers les bois. Donc là, Navel nous raconte quelque chose que lui a vécu. Il est véritablement du monde qu'il décrit, le décrit donc de l'intérieur comme plongé dedans. Alors on le voit, du coup, lui, il fait un usage de guillemets pour, vous voyez, nous dire qu'on ne disait pas femme, mais la mère, etc. C'est un emploi tout à fait différent, sauf qu'on a encore une chose, c'est ce grand mouchoir à carreaux. Vous voyez, ce grand mouchoir à carreaux, on peut dire, c'est une sorte de va-et-vient entre l'émotion et la dignité, vous voyez, une forme de chose qui est devenue pour lui en partie pittoresque, puisqu'il est à la fois de ce milieu et plus tout à fait, même s'il sera ouvrier sa vie durant, il est néanmoins un ouvrier lettré, il est donc en quelque sorte déchiré entre les livres et le mouchoir à carreaux. Et le dernier auteur qui écrit quelques dizaines d'années plus tard, c'est Thierry Metz, qui est un très grand poète du XXe siècle, qui a toute sa vie été ouvrier, manœuvre même pour tout dire, bon, qui est décédé à 40 ans, et voilà ce qu'il écrit dans un livre qui s'appelle « Le journal d'un manœuvre » et qui est donc là véritablement le récit encore plus fidèle que Navel en quelque sorte, puisqu'il raconte là son expérience à lui, professionnelle on peut dire. 3 juillet, la pioche est moins bavarde le vendredi. On sent dans les reins qu'on a porté du poids toute la semaine. On sent qu'on approche. Ce sont les derniers mètres avant la halte, avant de retrouver le livre d'images dans le poing fermé du dormeur. Travail de passeur, d'une rive à l'autre, sur le radeau d'une parole donnée, mais aussi d'un ordre, aucune marchandise, des pierres, des gravats, de la terre, tout un sous-sol qu'éclaire le moindre geste qui le transmet de manœuvre à manœuvre. J'aime à croire qu'un jour peut-être, un dieu sans nom s'asseoira sur ce petit tas de terre, prendra place dans la tombe éclairée de mes gestes, avec les mots de tous les jours, simples passereaux. Il soufflera un instant, puis repartira vers ce qui a lieu dans les déserts où sont les hommes et leurs chantiers. Vendredi, ce sera son nom. Et bien là, je crois qu'on peut dire que Piarot a rejoint la littérature.
Merci Eric. Il nous reste 5 minutes et il y a une question que je ne peux pas ne pas vous poser pour relier encore une fois à votre travail. On aurait pu en faire une heure en partant de cet endroit-là, qui est le titre, Une sortie honorable. Il y a une ironie dans ce titre, hein, donc, que vous pouvez expliquer, c'est-à-dire que effectivement, on l'a compris, c'est une formule qui est largement euphémistique pour décrire ce dont il s'agit. Et je regardais vos 4 derniers livres en date. L'ordre du jour aussi, hein, il y a une forme d'ironie. Et puis, 14 juillet et La guerre des pauvres ont des titres en beaucoup plus grande littéralité. Donc, pour le dire vite, est-ce que, avec vos armes d'écrivain, l'usage de l'ironie que vous faites n'est-il pas, en toute modestie, hein, mais dans le projet, n'est-il pas une manière de tentative de renversement et de réappropriation ? C'est-à-dire, l'ironie, vous l'utilisez à l'égard de... Ce que j'oubliais de dire, c'est que ce sont deux livres qui parlent depuis les puissants. La focale, elle est sur les puissants, et là, la focale, elle est sur les dominés. Est-ce que voilà, l'usage de l'ironie et le renversement qu'elle peut produire ? et on n'a plus que 4 minutes.
Oui, je pense que l'ironie, en fait, produit une forme de connaissance, et au sens où peut-être on ne pourrait pas la produire autrement ou d'une autre manière. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un outil qui permet de faire rire un instant et d'indiquer quelque chose. Il me semble que les films de Chaplin, par exemple, par l'ironie qui est la leur, tout à coup, l'humour même, au fond, fabriquent des scènes qui nous indiquent et nous font comprendre des choses que l'étude, au fond, ne nous permettrait pas de comprendre. Et pour donner un exemple en peinture, prenons les célébrités du juste milieu, vous savez, les petites statuettes de Daumier. Si on prend la statuette de Guizot, par exemple, on trouve, on peut se dire, c'est une caricature, vous voyez, c'est ironique, il se moque en quelque sorte de Guizot, il exagère, le trait est accentué. Mais quand on regarde les tableaux qui ont par ailleurs été faits de Guizot, je crois que l'un des portraitistes les plus célèbres de Guizot, c'est Vernet, qui a fait notamment une espèce de portrait en médaille, le problème est qu'il n'est pas très sûr que la caricature, ce soit la petite statuette de Daumier. C'est qu'en réalité, il n'est pas sûr que Guizot, dans cette manière de peindre beaucoup plus réaliste, voyez, en apparence beaucoup plus sage, beaucoup plus posé que les petites sculptures pétries par les doigts de Daumier, nous apparaît aussitôt, voyez, par sa manière, au fond, comme étant plus réaliste. En réalité, elle est seulement plus flatteuse. C'est-à-dire que ce qu'on voit de Guizot, c'est rien sur ce portrait. Rien qu'un homme d'État, comme on nous les peint d'habitude, voyez, plein de dignité, solennel, etc. Ce qu'on voit avec Daumier, c'est non seulement Guizot lui-même, physiquement, on le reconnaît, mais ce qu'on reconnaît, c'est sa haine du suffrage universel aussi. Vous voyez, ça, quelque chose sur son visage témoigne de quelque chose. Tandis qu'évidemment, dans le tableau plus solennel, dans la médaille, ce qu'on voit, je vous dis, c'est un homme d'État, c'est la statue équestre, en quelque sorte. Et je crois donc qu'à l'inverse de ce qu'on pense, il est possible que l'ironie soit du côté d'un réalisme plus grand, au fond, que l'apparence d'un art, disons, plus sage et mieux peigné.
Merci Eric, et ça me faisait, voilà, je repensais à des moments d'une sortie honorable, puisque effectivement c'est directement illustré par certaines scènes où c'est, voilà, littéralement là dans le texte, les charges contre certains hommes politiques largement méritées, et le portrait qui en est fait est non seulement énergique, drôle, et porteur d'autant plus de sens. C'est toujours un crève-cœur que de vous couper la parole. On a envie de continuer à vous entendre parler. Celles et ceux qui sont présents dans la salle peuvent aller profiter de la séance de dédicace pour discuter avec vous, ce qui est un plaisir. Merci infiniment. Les autres qui nous écoutent sur Internet vont se ruer, j'espère, sur une sortie honorable et les autres livres d'Éric. Merci encore une fois beaucoup. Autre information que je donne pour le festival, Estelle Sarabul rencontre dans 3 minutes à côté. Merci de votre attention. J'espère sincèrement que celles et ceux qui ne connaissaient pas déjà Éric Vuillard auront d'autant plus envie d'aller s'y plonger. Merci de vos propos et puis de vos livres, quoi, parce que c'est très nourrissant pour nous tous et toutes.